This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bientôt 22h, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une heure de débat pour tenter de comprendre, analyser, décrypter l'actualité avec au sommaire ce soir. C'est historique. Pour la première fois, le Maroc s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Scène de liesse sur les Champs-Élysées où une marée rouge a déferlé sur la plus belle avenue du monde. Quelques incidents ont été signalés. Plus grave à Nice où les forces de l'ordre ont été prises pour cible. Des tramways caillassés, des images qui rappellent celle de Bruxelles, il y a moins d'une semaine. Des scènes de violence avaient éclaté après la victoire du Maroc face au Canada. Nous tenterons de comprendre pourquoi de telles scènes de violence se sont produites à l'issue de ce match. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du risque de coupure d'électricité cet hiver. Le pic de consommation est attendu en France lundi prochain. Emmanuel Macron se veut rassurant. Pourtant, certains spécialistes commencent à s'interroger. Devrons-nous fêter Noël et le jour de l'an à la bougie ? Élément de réponse dans Soir Info avec les invités qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir Jean Messia, soyez le bienvenu, président de l'Institut Apollon. À vos côtés, Karima Bric. Bonsoir chère Karima, vous êtes journaliste. Valérie Lecable, soyez la bienvenue également.
Bonsoir.
Journaliste, présidente de HK Stratégie. Et puis Patrick Finial, vous êtes député Renaissance de l'Hérault. Bienvenue à tous les quatre. On commence nos débats dans quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien Spiteri.
Bonsoir Johan, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, 5 accusés quittent la salle d'audience au procès des attentats de Bruxelles. C'est le cas de Salah Abdeslam. Il dénonce des conditions d'extraction indignes. Le procès s'est ouvert ce lundi. En 2016, 32 personnes avaient trouvé la mort dans ces attentats. Annie Ernaux, lauréate du prix Nobel de littérature, l'écrivaine de 82 ans, est la première française à être couronnée. Elle recevra officiellement son prix à Stockholm ce samedi. Je vous propose de l'écouter.
Quand l'indicible vient au jour, c'est politique. On le voit aujourd'hui avec la révolte de ces femmes qui ont trouvé les mots, comme en Iran, écrivant dans un pays démocratique. Je continue de m'interroger cependant sur la place occupée par les femmes. Leur légitimité à produire des œuvres n'est pas encore acquise.
Vladimir Poutine s'est lui également exprimé. Le président russe a participé à une réunion télévisée aujourd'hui. Selon le chef du Kremlin, la moitié des réservistes mobilisés cet automne ont été déployés sur le terrain en Ukraine. Écoutez.
Sur ces 150 000 mobilisés qui se trouvent sur place, seulement la moitié, 77 000, se trouvent immédiatement sur la zone de combat. Les autres sont en deuxième ou troisième ligne et remplissent des fonctions de défense du territoire.
Et on termine ce journal avec l'Union européenne. Elle veut sanctionner l'armée du Kremlin et 3 banques russes, annonce Ursula von der Leyen ce mercredi. Selon la présidente de la Commission européenne, les sanctions adoptées jusqu'ici font déjà mal à Moscou. Ces nouvelles mesures doivent encore être approuvées à l'unanimité par les 27 pays membres de l'UE. Voilà, Johan, pour l'essentiel de l'actualité.
Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Restez avec nous, on commence nos débats dans quelques minutes. À tout de suite. 22h08 de retour en direct sur CNews. Merci d'être avec nous pour commencer nos débats donc avec cette victoire historique, je vous le disais, celle du Maroc qualifié pour la première fois pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Une fête en partie gâchée par ce que l'on a coutume d'appeler des incidents. À Reims, ce sont des poubelles qui ont été incendiées, des feux d'artifice tirés en direction des forces de l'ordre. Même scène à Lille où des tirs de mortier ont visé les CRS qui étaient pourtant présents en grand nombre. À Nice, des voitures ont également été incendiés. Augustin Donadieu.
La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway ou voitures brûlées, Éric Ciotti réclame des sanctions.
Tramway bloqué et caillassé, policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois.
À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu, mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les Champs-Élysées, encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters auront donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur, à grand renfort de drapeaux et de klaxons.
Patrick Vignal, je rappelle que vous êtes député Renaissance. Ces scènes, notamment celles qui ont touché la ville de Nice, où des policiers ont été pris à partie avec des tirs de mortier, j'ai envie de vous dire, hélas, nous y sommes quelque part un peu habitués. Est-ce qu'elles sont devenues inéluctables ?
Vous savez, moi j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de foot 98. J'étais responsable du stade à Montpellier. Et suivant les matchs, après il y avait des débordements. Mais le vrai débat, regardez à Paris, ça a été bien structuré, organisé. Je suis arrivé hier soir en taxi, j'ai vu des femmes et des hommes heureux de célébrer une victoire. Après, on est clair, il y a eu 44 arrestations. Vous avez toujours, comme dans des manifestations, des voyous.
Donc c'est ce que je vous dis, c'est devenu inéluctable. Puisque vous dites, ça arrive toujours. Donc...
Si vous voulez, les phénomènes de foule, souvent... Les manifestations, regardez-les, qui sont souvent légitimes. On a toujours, ou en fin de cortège, au moment donné, des gens qui viennent uniquement pour casser ou pour piller. Et avec cela, il faut être intraitable.
Vous avez raison de préciser, pardon, qu'il faut être intraitable, parce que dans la réponse que vous venez de formuler, on a l'impression que peut-être chez vous, il y a une forme de résignation qui s'est installée.
Non, mais cher monsieur, il n'y a pas une résignation. Depuis toujours, ça existe. Dès qu'il y a un rassemblement festif, notamment dans le foot, moins dans le rugby, moins dans le handball, on a toujours des gens qui se mêlent et qui viennent pour casser. Il faut mettre des forces de police. Nous l'avons fait sur Paris. Je peux vous donner l'exemple de Montpellier. Ça a été une soirée exceptionnelle. À Nice, il y a eu des délinquants. Il faut qu'ils soient arrêtés et sanctionnés.
Jean Messia.
Non, mais ce qui est fabuleux, c'est que les turiféraires béats du vivre ensemble bienheureux ne voient pas la réalité, en fait. C'est extraordinaire. Ils nous parlent de petits voyous. Excusez-moi, ce qui s'est passé à Lille, ce n'est pas des petits voyous. Et même sur les Champs-Élysées, dont on a dit qu'il ne s'était rien passé, moi j'ai vu un drapeau israélien brûlé avec des propos antisémites. Donc il ne s'est pas rien passé, excusez-moi. Donc ceux qui doutent du grand remplacement, excusez-moi, vous avez devant vous... les images qui prouvent que lorsque il y a un événement, eh bien tout un peuple descend dans la rue pour les fêter. On a même eu des exemples de décrochage de drapeaux.
On a le droit d'aller célébrer la victoire d'une équipe de foot. On ne parle pas de ça. C'est quelque chose de tout à fait normal. On ne reproche pas à ces personnes de descendre dans la rue fêter la victoire de l'équipe. On reproche à certaines personnes d'avoir cassé, d'avoir agressé les forces de l'ordre. Ça n'est pas la même chose.
Oui, mais sauf que là, si vous voulez, ce qui s'est passé, globalement, c'est quand même ce que vous décrivez en dernier. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des dégradations, des violences, des attaques de policiers. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est votre reportage qui le dit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis arrivé en France dans les années 70. À l'époque, il y avait l'Italie, par exemple, qui remportait des victoires. On nous dit que toutes les immigrations se valent. Excusez-moi, moi, dans les années 70, je n'ai pas vu de supporters italiens ou espagnols ou portugais descendre saccager des villes, s'attaquer à des flics.
Ah non, Valérie Le Cable.
Balancer des cocktails Molotov sur des flics, excusez-moi, décrocher des drapeaux des mairies pour accrocher le drapeau italien, j'ai jamais vu ça.
Valérie Le Cable vous répond.
Alors, le foot, on en a parlé déjà sur ce plateau, c'est la Coupe du Monde de foot. Et chacun, il y a des équipes qui représentent des pays et donc les gens s'approprient et s'identifient aux victoires de leur pays. Et
c'est mais l'intérêt... ils sont français.
Je peux vous me laisser terminer.
Ils sont français.
Donc c'est l'intérêt de cette...
Soi-disant.
Oui, mais ils sont français, mais
soi-disant.
Ils sont heureux que le Maroc... Je suis désolée.
Ce sont des Français, ce sont des Français d'origine marocaine.
Exactement.
Attendez, mais voilà. S'ils font ça... C'est,
non, mais est-ce qu'on peut terminer une phrase?
S'ils font ça quand ils sont heureux...
Est-ce qu'on peut terminer une phrase?
S'ils font ça quand ils sont heureux, qu'est-ce que ça sera quand ils seront en colère?
Jean Messia, vous avez la parole dans cette émission, je vous la redonnerai après, mais laissez parler Valérie Le Cable.
On ne va pas laisser parler quand je me suis exprimé.
Mais pardonnez-moi, sinon les téléspectateurs ne comprennent rien. Alors Valérie Le Cable, allez-y.
Il y a, par exemple, dans ce pays, vous avez parlé des Portugais. Quand le Portugal gagne, il y a beaucoup de Français d'origine portugaise qui sont dans les rues. Et c'est vrai que sur les Champs-Élysées, ça s'est très bien passé, justement. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on aurait pu redouter, ça s'est bien passé. Et les Portugais, et quand ils gagnent, il y a aussi des débordements à la fin. Donc vous tirez, vous
c'est
tirez
un mensonge.
Des conclusions. Si, il y a des débordements.
C'est un mensonge.
Parce que ce
vous
qui
mentez.
A été dit est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mêlent aux foules.
C'est faux.
Pour aller casser, parce que ça les amuse, ce sont des casseurs. Et en l'occurrence, concernant ce qui s'est passé, en tout cas sur les Champs-Élysées hier dans les autres villes, je ne suis pas assez compétente
pour le savoir.
Vous
ne voulez pas le voir, oui.
Mais sur les Champs-Élysées, ça s'est exceptionnellement passé.
Karim Abrik.
Karim
Abrik. Précisément, qui sont ces casseurs, selon vous? Est-ce que ce sont ceux qu'on a l'habitude de voir, finalement, dans la plupart des manifestations en France, ou est-ce que ce sont réellement des supporters de l'équipe du Maroc qui sont venus là pour casser parce qu'il s'agit précisément de l'équipe du Maroc?
Oui, c'est intéressant. Ben, en fait, il faut voir la composition exacte, mais ce que je peux dire, c'est que ce genre de manifestations, de débordements, c'est vrai qu'on peut les observer quand il y a des matchs de foot, les gens descendent spontanément dans la rue, et c'est l'expression de la joie, mais aussi de la colère. Et j'allais dire, c'est presque l'expression...
Excusez-moi.
Mais oui, c'est les deux. J'allais dire, ces manifestations permettent l'expression de la joie et permettent aussi l'expression d'une certaine colère chez des gens. Dans certains cas, ça va être une expression, par exemple, de l'antisystème. Donc, vous allez avoir des Black Blocs qui vont se joindre à n'importe quelle manifestation pour exprimer leur indu-système et être violents. Dans d'autres cas, ça va être plutôt des gens qui ont une certaine crise identitaire et qui ont un certain ressentiment envers la France, les Français, l'Occident. Je ne dis pas que c'est la généralité. Je dis qu'il y a malheureusement ce genre de manifestation permet cette expression de la joie et de la colère. Et c'est ce qu'on a vu aussi quand on voit des policiers se faire attaquer, quand on voit des tramways se faire caillasser également. Donc, il y a eu des atteintes à du mobilier, on a vu des feux de poubelle, etc. Il y a quand même cette expression, on ne peut pas la nier, il faut la voir, elle est réelle.
Alors, attendez, pardon, je veux qu'on écoute, avant de vous redonner la parole tout de suite, Thibault de Montbrial, qui est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Voilà ce qu'il dit concernant les événements qui se sont produits hier. Écoutez, on en parle après.
À chaque fois qu'il y a des grands événements sportifs, pardon, et en particulier de foot, on mesure à quel point la population immigrée qui vit en France, et j'inclus, pour ce qui concerne le foot, parfois des gens qui sont français, mais qui sont d'origine étrangère, retrouvent une espèce d'adhésion initiale à leur pays d'origine. Il y a une espèce de retour aux sources, de retour aux racines, également avec des tensions. Alors, il n'y a pas toujours des violences, mais il y a souvent des tensions envers les policiers, une manière assez agressive de regarder les gens qui ne font pas partie du cortège, qui portent de façon sous-jacente les tensions qu'il y a dans notre pays autour de la question migratoire.
Patrick Vignal, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse?
Il y a une partie qui est vraie de cette analyse, mais je vais vous dire en fait ce qui se passe.
Laquelle?
La partie de personnes... Moi, j'ai mes collègues espagnols. S'ils avaient gagné, ils étaient dans la rue eux aussi.
Ils auraient balancé des cocktails Molotov.
Monsieur Messia, s'il vous plaît. Le vrai problème, le foot, c'est aussi la violence. Parce que là, on parle du Maroc. Mais désolé, monsieur Messia, allez dans un stade. Quand il y a un stade à Montpellier, il y a 300 policiers
qui surveillent. Mais arrêtez, c'est des scènes de guerre urbaine qu'on voit là.
Mais quand c'était le PSG, alors c'était
le PSG, c'est incroyable,
vous faites comment?
Mais c'est incroyable.
C'est exactement pareil.
Oui, exactement, c'est des gens d'origine maghrébine aussi.
Mais bien sûr que non,
bien sûr que si.
Mais vous plaît.
Attendez, Patrick Vignal termine et ensuite vous lui répondrez.
Le PSG, c'est
Valérie, s'il vous plaît.
Le foot, bien sûr. Le foot, l'activité foot amène de la violence. Madame, ce que vous disiez, effectivement, la partie foot, il y a une partie d'exutoire, d'opium du peuple. Et ce qui se passe souvent là, et on a beaucoup analysé, en tout cas chez nous dans le Sud, c'est que des gens, des voyous, des casseurs, des délinquants profitent de ce phénomène de liesse pour casser des commerces. Ce qui me gêne dans la parole de Monsieur Messia, c'est qu'il ramène tout au grand remplacement. Et c'est faux, cela.
Alors, j'ai une question.
Aujourd'hui, les jeunes qui étaient là, ils venaient pour piller des commerces. Ils venaient faire commerce.
C'est faux.
Et cela, on doit être intransigeant. Que ce soit le Maroc, l'Espagne, l'Angleterre. Vous connaissez les supporters anglais comme ils sont,
cher monsieur.
J'y suis allé voir comment c'était. Croyez-moi, ce n'est pas des bisounours.
Les Anglais sont remplacés aussi, mais ce n'est pas la question. Pourquoi, lorsque la France gagne, on n'a pas des scènes d'émeutes de Français au Maroc? Parce qu'il n'y a pas de Français au Maroc.
Non, mais c'est
tout simplement. Si on a des scènes d'émeutes majeures dans des grandes villes françaises de quantité de personnes avec des drapeaux marocains, c'est bien qu'il y a un phénomène de présence massive d'un peuple à l'intérieur du peuple. Le phénomène des drapeaux est très symbolique. Le symbole du drapeau est très fort. Nous avons là, devant vos yeux, l'expression d'un irrédentisme alter-identitaire, marocain en l'occurrence, qui s'exprime sur le territoire français et qui va jusqu'à décrocher un drapeau français d'une mairie, d'une annexe de la mairie d'Amiens, pour mettre le drapeau marocain. Comme disait ma grand-mère, vous, même si vous avez le nez dedans, vous continuerez à dire que ça sent la rose. C'est incroyable.
Alors, si vous êtes en train de dire, Jean-Michel, qu'il y a des Français d'origine marocaine qui vivent en France, vous avez tout à fait raison.
Ils se sentent marocains plus que français, oui.
Après, il y a quand même un gros problème, c'est que vous faites des amalgames en permanence. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire. Le PSG, d'accord ? Le PSG, ils ont eu pendant des années des supporters tellement violents. Les Boulogne's Boys, ça vous dit quelque chose ?
Oui, c'était il y a 40 ans, on les interdit.
Qui faisaient des saluts nazis, ça vous dit quelque chose ?
Oui, on les a interdits.
Ils ont été interdits.
Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour interdire ça ?
Qu'ils ont tué quelqu'un dans la rue, ça vous dit quelque chose ?
Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ça ?
Est-ce que vous avez parlé de grand remplacement à cette époque-là ?
Ben non.
Il y a chez les supporters.
C'était des minorités, enfin.
Bon. Mais non, c'était pas une minorité.
Mais bien sûr que si,
ils ont fermé les stades pendant.
Il n'y avait pas des dizaines de milliers de personnes qui défilaient avec des cocktails molotov.
C'est insupportable.
Allez, pardon, on va marquer.
Vous dites n'importe quoi.
S'il vous plaît, Jean-Michel.
Mais c'est vous qui dites.
Valérie Lecable, on va marquer une courte pause de toute façon.
Non, on
continuera d'évoquer ce qui s'est passé hier dans quelques minutes. Mais effectivement, Jean-Michel, ce qui interroge un peu dans ce que vous dites, c'est que vous semblez regretter finalement que des supporters d'origine marocaine puissent descendre dans la rue, fêter la victoire d'une équipe qu'ils ont le droit de soutenir. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contester.
Je ne conteste pas ça. Je ne conteste pas ça. Je dis simplement que d'abord, la quantité interroge quand même, le nombre de personnes interroge. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les violences.
Mais attendez,
Jean-Messia, pardon. S'il vous plaît, c'est très désagréable. Je vous assure, c'est extrêmement désagréable. Simplement, corrigez vos propos ou alors assumez-les. Mais il est vrai que quand vous dites la quantité, ça peut choquer parce que, pardon, mais ces personnes sont françaises, celles qui ont soutenu hier le Maroc, sont français, ils sont d'origine marocaine peut-être, mais ils sont français et ça peut les heurter évidemment.
Mais j'ai une question à vous poser, c'est en tant que français qu'ils ont défilé hier ?
Non mais...
Mais c'est l'équipe, il y a une équipe qui gagne.
Mais dites non.
Non, mais c'est hallucinant quand même. Bah si.
C'est pas en tant que français qu'ils ont défilé hier, ils ont défilé avec des drapeaux marocains.
Bon, allez,
excusez-moi.
On marque une courte pause et on se retrouve donc après la pub pour continuer d'évoquer hier donc la victoire du Maroc et ses heurts qui ont parfois éclaté dans plusieurs villes de France. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien Spiteri.
Bonsoir Yoann, bonsoir à tous. Une grève peu suivie à la SNCF ce mercredi. Le trafic a été partiellement perturbé sur les TER ainsi que sur certaines lignes d'Île-de-France. La direction du groupe a proposé aux cheminots une revalorisation salariale de 5,9% en moyenne en 2023. Les syndicats n'ont pas encore communiqué leur position concernant cette offre. Troisième jour de grève en Iran. Les magasins sont toujours fermés. Les commerçants ont répondu à l'appel des opposants au régime. Malgré la répression, la contestation ne cesse de gagner du terrain. Des étudiants ont manifesté ce mercredi et boycotté les cours. Et puis J-3, avant France-Angleterre, la Coupe du Monde de football au Qatar. Un match ouvert, selon Adrien Rabiot. Le milieu de terrain des Bleus était en conférence de presse aujourd'hui. Il assure également être dans la meilleure période de sa carrière.
Alors les incidents qui ont eu lieu hier dans plusieurs villes de France à l'issue du match remporté par le Maroc ont pris une tournure politique. Je voudrais qu'on voit à présent ce tweet de Bruno Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui est candidat à la présidence des Républicains et qui pose la question suivante. Pourquoi les scènes de liesse au Maroc ne donnent pas lieu à des dégradations comme en France? Simplement parce que nous acceptons depuis des années d'être des paillassons. On accueille des gens qui s'essuient les pieds sur notre pays en toute impunité. Valérie Lecable, que vous inspire ce commentaire de Bruno Retailleau?
Écoutez, moi je vais souvent au Maroc et le problème, la différence entre le Maroc et la France, c'est que le Maroc est extrêmement protégé d'un point de vue policier. Au Maroc, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de black bloc, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes au Maroc, les gens sont arrêtés, on ne les voit plus et c'est terminé. Il n'y a pas de terrorisme au Maroc. C'est un pays avec le roi du Maroc qui est extrêmement bien tenu et dans lequel ce type de débordement n'intervient pas simplement. Alors, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, en France, contrairement au Maroc, on ne sait pas contenir ces gens-là. C'est tout. C'est la grosse différence. On ne sait pas contenir.
Mais alors c'est un problème, pardon, de ne pas savoir les contenir. C'est un réel problème.
Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Peut-être qu'il peut y avoir plus de débordements pendant un match du Maroc qui est gagné par le Maroc. Pourquoi pas, je veux bien vous accorder ça. Mais je vous promets qu'il y a des débordements après des PSG-OM, après des Turcs, l'équipe turque dans le Galatasaray. Il n'y a pas une fois où le Galatasaray joue au Parc des Princes et où il n'y a pas des débordements absolument terribles. Donc, le débordement est quelque chose qui est inhérent au football. Et simplement, en France, on ne sait pas maîtriser cette partie-là, néanmoins, malheureusement.
Patrick Vignal, pourquoi est-ce qu'en France, les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur, considèrent qu'un match du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie sont des matchs qualifiés de matchs à haut risque?
Moi, je pense, si vous voulez, que c'est complexe, quand vous avez des millions de supporters, d'arriver à sortir de ces supporters les délinquants et les voyous.
Il y avait des dizaines de milliers de personnes hier, pas des millions en l'occurrence.
Non, mais des dizaines de milliers. Oui. Un, c'est le premier point. En ce qui concerne Bruno Retailleau, il est en campagne pour le deuxième tour. Et vous savez qu'aujourd'hui, certains républicains, pas Aurélien Padré, mais si Oti Retailleau, sont en train de vouloir faire les poches au Rassemblement National. C'est ce qui me gêne sur une grande partie de la classe politique, c'est de la posture. Comment il ose dire que ces gens s'essuient les pieds comme des paillassons? Je suis désolé de vous le dire, et c'est un vrai débat qu'on aura aujourd'hui. C'est la place de l'immigration chez nous. Parce que venez chez moi, mes agriculteurs, mes viticulteurs, vous savez que les restaurants, les hôteliers...
Non mais on parle des casseurs, pardon. On parle des casseurs.
Non monsieur, parce que sur les milliers de personnes, ils étaient tous casseurs. Moi, j'ai vu des papas, des mamans, des gamins fiers de venir dans la rue, fiers de porter de ces couleurs.
Mais absolument. Mais là, mais là, on parle des casseurs, en l'occurrence.
Mais voilà. Les casseurs, monsieur, il faut les arrêter. Ça ne vous a pas échappé qu'au Maroc, ce n'est pas une démocratie. Au Maroc, la moindre chose, c'est prison. Donc, je suis désolé, on a quand même une démocratie. Il faut qu'on soit peut-être un peu plus dur, plus ferme.
Un état de droit, en l'occurrence.
Gérard Darmanin a mis des moyens. On va mettre 8000 policiers de plus. Mais ce que je ne supporte pas, c'est de confondre tout et de parler de grands remplacements.
Jean Messia.
Le Maroc n'a pas ses problèmes parce qu'il n'a pas non plus de forte immigration qui les provoque. Il faut le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le problème, ce n'est pas un problème de foot, ce n'est pas un problème de manifestation de liesse ou de joie après un match de foot. Le problème, c'est l'occasion qui est donnée par le match de foot à tout un irrédentisme alter-identitaire de s'exprimer. Moi, je connais beaucoup de Marocains et d'amis marocains qui, lorsqu'ils voient ces images, ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe. Je suis désolé, on peut dénoncer, non mais sans minimiser ce qui se passe, parce que là, ce que vous voyez sur les images, c'est pas simplement des casseurs, c'est des comportements de voyous. Voilà. Et d'abord, les Portugais que vous avez comparés à ces casseurs seront ravis de l'apprendre. La totalité des Marocains n'est pas solidaire avec les images que nous voyons. Et si au Maroc, les choses ne se passent pas comme ça, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de grande communauté qui vient mettre le bordel comme c'est le cas.
Karim Abrik, exprimé là-dessus.
Il y a beaucoup de Français au Maroc.
Hein. Ils ne font pas ça, madame. On est d'accord là-dessus.
Ils ne font pas ça, mais il y a beaucoup de Français.
Voilà, c'est la différence.
Karim Abrik.
Et on va quand même le dire, ça reste que c'est une minorité, effectivement, de gens qui font ce genre d'actes délictueux, mais ces personnes-là font honte aux Français de toutes les origines, font honte aussi aux Marocains. Je veux dire, on regarde ça. Par ailleurs, il y a des choses quand même, on ne peut pas faire abstraction de certains individus qui ont une haine envers la France. Et ça, c'est malheureux, mais ça existe et on ne peut pas s'aveugler de ça non plus. Et ce n'est pas d'être méchant, d'être xénophobe ou quoi que ce soit, que de constater que certaines personnes ont un malaise identitaire, n'aiment pas la France d'aujourd'hui pour X, Y raisons. Hein.
Ils ont leur raison. La voit jamais, hein.
Et malheureusement, dans ce genre de manifestation, on peut exprimer ce genre de colère. Et c'est ce qu'on voit un peu partout.
Mais madame, je partage cette analyse. Il y a des gens qui ne sont pas intégrés ou qui n'ont pas voulu s'intégrer en France et qui ont la haine de la France. Ceux qui brûlent le drapeau de la France, ils n'ont pas envie d'être français. J'ai pas de souci. Ce que je veux dire juste, c'est que l'activité foot amène de la violence, différente du rugby, différente du handball, différente des arts martiaux. Je viens des arts martiaux, quand l'équipe de France est championne du monde de judo, il n'y a pas de débordement. Ce que je veux vous dire, c'est que le foot lui-même amène cette violence. Mais je ne veux, veux pas l'excuser. On doit être ferme. Mais je ne veux pas mettre tout le monde me sape. Moi, hier soir, j'ai vu sur les chaînes des familles heureuses, respectueuses.
Mais on ne parle pas de ça non plus.
Mais je ne vous ai pas dit le contraire pour vous. Je parle le cas de M. Alors,
Je veux qu'on regarde maintenant ce qu'a dit le président de l'agglomération de communes de Fréjus. C'est dans le Var qui, à la suite de ces débordements qui ont touché aussi la commune de Fréjus, a pris une décision. Regardez ce qu'il dit. Face à de nouveaux tirs de mortier, des jets de pierre et des fumigènes, la police a de nouveau dû intervenir dans le quartier de la Gabelle. Toutes les aides de l'agglomération pour ce quartier sont immédiatement suspendues. C'est-à-dire qu'à la suite des débordements après la victoire du Maroc, il a décidé de suspendre purement et simplement toutes les aides à destination de ce quartier. Ça représente quand même 69 000 euros, dont 11 000 euros pour des cours de français en soutien et de soutien aux femmes, et 20 000 euros pour la création d'une micro-crèche sur le quartier.
Mais il est tout à fait dans son rôle, et il a tout à fait le droit de le
faire. Vous jugez que c'est une bonne décision, Patrick Vignal aussi?
Je trouve qu'il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Après, ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Karima, et je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, hein, je n'ai pas de problème, c'est que le fait de s'affronter à la police, ce n'est pas forcément une haine de la France non plus. Ce sont des jeunes aussi. En mai 68,
c'est
à Paris...
C'est au minimum la haine de l'autorité de l'État.
Non, mais en mai 68, à Paris, il y avait tous les jeunes dans la rue qui s'affrontaient à la police. Et ça a duré des mois. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément que la haine de la France.
Oui, mais pardon Valérie, mais en 1968, il se battait pour des choses... Il se battait pour des choses bien précises. Ça n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce qui a été dit, c'est que le foot, ça entraîne une liesse.
Non, mais je veux qu'on revienne à la décision prise par le président de l'agglomération de Fréjus, Patrick Vignal. Est-ce que vous approuvez le fait de suspendre des aides qui vont pénaliser quand même l'ensemble des habitants d'un quartier parce que certains de ce quartier, hier,
s'il en a marre. Hein.
D'abord, c'est vrai qu'il y a un problème d'autorité en France. Il faut rétablir l'autorité. Moi, qui suis un homme de gauche, je vous le dis, qu'on soit clair. Après, le vrai débat, c'est quoi? Sur un quartier, je vois qu'il va suspendre les cours de français pour les femmes qui veulent s'intégrer. Il va... suspendre peut-être une micro-crèche qui permettait aux femmes d'aller trouver un emploi pour s'émanciper. Vous savez ce qui me gêne? Et moi, ça m'est arrivé une fois de faire ça, sur un territoire, de supprimer des aides. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution. Je pense que Monsieur le maire a été élu en démocratie. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais je vous fais un pari qu'on doit trouver... Merci. On doit trouver ceux qui ont fait... ces exactions qui sont violentes, mais je pense que punir un territoire, c'est enfoncer encore plus de territoire.
Voilà ce que je
pense. Non, ce que nous voyons là, je pense que ce maire a tout à fait raison, c'est qu'en fait, c'est l'échec d'une politique de naturalisation folle et d'un droit du sol complètement fou qui a accordé des nationalités françaises à des gens qui ne se sentent pas français. Et quand on dit ce sont des Français de papier, c'est pas faire insulte. Lorsqu'ils défilent avec leur identité marocaine, moi j'ai rien contre l'identité marocaine, mais qu'on vienne pas m'expliquer que ces gens-là se sentent français. Excusez-moi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à quoi servent toutes les aides qui sont données au quartier, toute la générosité dont la France a fait preuve pendant des dizaines d'années et qui représente des dizaines de milliards d'euros? C'est tout simplement pour essayer d'agglomérer l'ensemble de ces individus, de ces immigrations, à la nation française. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, on n'achète pas finalement l'adhésion à une nation. Ce n'est pas en arrosant de milliards d'euros que vous allez faire des Français. C'est l'échec patent de la politique de la ville. Et ce maire a parfaitement raison, il en a pris conscience et il a arrêté les aides parce que ce n'est pas avec ça que vous allez acheter la paix sociale.
Allez, Karine Abric, pour conclure sur ce sujet.
Mais non, mais moi j'ai l'impression, par ailleurs, que c'est une tentative un peu désespérée. Il ne sait pas trop quoi faire. Je pense qu'il devrait plutôt viser les personnes qui créent le trouble dans ces quartiers. À un moment donné, on dit qu'en ce moment, la réponse judiciaire...
C'est pas facile, hein?
Je sais que c'est pas facile. Évidemment que c'est pas facile. Mais est-ce que c'est facile après de pénaliser les gens qui en sont victimes, qui sont victimes de ces gens-là, de ces criminels?
Non, mais ce que dit Karine Abric est très intéressant parce qu'en fait, ce que fait le président de cette agglomération finalement, c'est sans doute ça. C'est peut-être un cri de désespoir même. Mais parce que l'État n'a pas réussi à régler le problème. Donc il en arrive à prendre cette mesure-là. Pardon, mais c'est parce que l'État a failli à sa mission quelque part.
Vous savez, là, et ça serait le débat d'une vraie émission, tempérée et posée.
Mais c'est une vraie émission qui est posée, tempérée, pas toujours, mais posée en l'occurrence,
avec,
oui.
Avec du temps. Le vrai débat, c'est la politique de la ville, l'entre-soi. On a créé, malheureusement, dans les métropoles, des quartiers qui sont l'entre-soi des pauvres, l'entre-soi des riches. Et on a assigné à résidence les mêmes personnes. C'est un vrai débat de logement, c'est un vrai débat de déplacement et de mobilité. Moi, j'en prends ma part, quand j'étais adjoint à la cohésion à Montpellier, sur les quartiers, on a fait la médiathèque, la maison pour tous, on a encouragé l'entre-soi, et les gens ne sont pas sortis de leur zone de confort. C'est le vrai débat qu'on doit avoir en France en ce moment.
Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà ce qu'on pouvait dire, effectivement, sur ce qui s'est passé hier, donc suite à cette victoire du Maroc, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football, victoire historique, des dizaines de milliers de supporters qui sont descendus dans les rues dans le calme, mais il y a eu effectivement des incidents dans plusieurs villes de France. Parlons à présent donc de ce risque de coupure d'électricité. Vous savez peut-être que le premier pic de consommation est attendu en France dans quelques jours, lundi prochain très exactement. Emmanuel Macron se veut rassurant. Pourtant, certains spécialistes commencent à s'interroger. Devrons-nous fêter Noël et le jour de l'an à la bougie? Élément de réponse avec Mathieu Rio.
Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier, demain à 19h selon les prévisions de RTE. Et un second, plus important, lundi prochain à midi, avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique français sera sous tension. Oui, il y aura des délestages, des coupures de courant.
En cas d'alerte rouge, des coupures locales d'une durée d'environ 2 heures pourront être organisées. Mais cet expert anticipe un scénario du pire.
Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manque de nos partenaires européens. Et donc, il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que nous passions Noël, le réveillon à la bougie.
Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver.
Patrick Vignal, vous avez entendu ce que dit cet expert. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures. Alors, pardon, mais ça n'est pas du tout ce que dit le gouvernement en ce moment.
Vous savez, moi, j'ai écouté avant de venir sur une autre chaîne un responsable RTE qui disait normalement, en fonction de la météo...
RTE, c'est le réseau qui s'occupe d'acheminer l'électricité.
Hein. En fonction de la météo, et si les Français font très attention, il n'y aura pas de coupure ou très peu. Je vais vous dire ce que je pense, moi, en tant que personnel politique. On a deux soucis. D'abord, en 2012, rappelez-vous, l'accord PSELV a fait qu'on a minimisé le travail sur le nucléaire. C'était une erreur.
On a sous-investi.
C'était déjà parlementaire, et je l'assume, nous avons été très mauvais. Donc nous avons un souci aujourd'hui de la fois redévoler le nucléaire, 56 centrales nucléaires, 20 à l'arrêt. Donc on n'a pas fait le job sur ça. On a le renouvelable qui arrive et c'est la France des palabres. Moi, le premier, j'entends tout et son contraire. Certains me disent les 3800 personnes sous respirateur risquent de se retrouver sans électricité. Il faut arrêter avec ça. Je pense qu'on a une nation solide, mais oui, il y a effectivement une incertitude en fonction de la météo et en fonction de ce que vont consommer les Français. Et il faut le dire aux Français en rupture, intelligemment, en disant « ça peut être compliqué ».
Bon, ce que je note déjà, c'est que vous faites un mea culpa, ce qui en politique est quand même plutôt rare en ce moment, où on a quand même l'impression qu'il n'y a aucun responsable à la situation que nous vivons en ce moment. Valérie Lecable.
Pas le seul.
Non, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train de se passer. On a vécu ensemble une crise sanitaire où on était en train de commenter tous les jours tous les drames qui arrivaient et pourquoi on avait peur et les gens qui mouraient, etc. Là, ça fait des semaines, voire des mois, qu'on est en train de s'inquiéter d'éventuelles coupures d'électricité. C'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a un problème de communication absolument terrible. C'est-à-dire que fin août, il annonce la fin de l'abondance parce qu'il fallait obtenir 10% de réduction.
On y est quasiment. On est à moins 8,3.
On est à 8,5. Moins 8,5. Donc, il y a eu une stratégie de faire peur aux gens pour qu'ils diminuent leur consommation pour éviter les coupures, en fait. Aujourd'hui, moi, je sais pas, je suis pas, ce que ont l'air de penser les gens, c'est qu'il devrait pas y avoir de coupure. Alors, cette personne-là est inquiète. Il y en a un d'Enedis l'autre jour, mais c'est un technicien qui parlait vraiment de façon très technique sur le fait qu'effectivement, les respirateurs, etc. Mais politiquement, on devrait pouvoir à peu près réussir à passer parce qu'on est à moins 8,5 et que l'objectif était moins 10. Mais le problème, c'est que les gens ont peur de quelque chose qui n'existe pas. En fait, ça n'arrive pas. On n'a pas eu de coupure encore.
Non, mais ça peut arriver.
Oui,
c'est tout le problème. Pardon.
On peut se faire renverser dans la rue aussi. Il y a plein de piétons qui sont traversés.
Vous faites des comparaisons quand même. Comparaison n'est pas raison.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de communication pour le gouvernement, c'est une catastrophe parce que, en fait, la population française s'inquiète de quelque chose qui peut-être adviendra, mais qui n'est pas advenu. Alors que la seule chose qu'il fallait dire, c'est nous, aujourd'hui, on est prêts à toute éventualité. On a mis des dispositifs en place pour faire face à ce qui peut intervenir. Et là, ça serait
précisément, Jean Messia, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, que le gouvernement a bien anticipé et que nous sommes prêts à faire face à ces éventuelles coupures?
Je ne fais aucune confiance au gouvernement, mais pas spontanément. C'est parce qu'on a quand même un passif. Un passif sur la crise sanitaire.
Vous entendez sur la même chose.
Si vous voulez, le problème, c'est que Valérie Lecap, d'ailleurs, a merveilleusement bien résumé le point de vue du gouvernement, c'est que c'est une approche purement technique et techniciste. C'est-à-dire, il y a des coupures d'essai, mais derrière, chère madame, il y a des réalités humaines. Il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui sont en souffrance, il y a des personnes malades. Comment pouvez-vous dire... le porte-parole d'Enedis qui a dit que les personnes sous respirateur artificiel étaient délestables, comment pouvez-vous dire...
Porte-parole qui a été limogé les dernières 24 heures.
Enedis n'est pas le gouvernement.
Madame Lecap l'a amoindri en disant « bon, bah, c'est un technicien, etc. » Mais si on avait prononcé de tels propos dans d'autres contextes, suivez mon regard, vous auriez été la première à sauter au plafond en disant « c'est inhumain, vous n'avez aucune humanité, etc. » Je suis désolé, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement... Pendant la crise sanitaire, c'était masque, pas masque. Après, c'était la guerre nucléaire, pas guerre nucléaire. Aujourd'hui, c'est coupure d'électricité, pas coupure d'électricité. Mais à quoi joue le gouvernement, en fait? Le gouvernement devrait se mettre les doigts dans la prise pour se ressaisir.
Non, mais là, on a peur d'une éventualité alors que la crise sanitaire, elle était réelle. C'est juste ça la différence que j'ai voulu.
Karim Abrik, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que nous sommes prêts, selon vous, à faire face à ce risque qui est pour l'instant un risque éventuel, on le rappelle? Il n'y a pas de certitude au moment où on se parle.
Il n'y a pas de certitude, mais les questions sont réelles. Il y a de réelles inquiétudes de la part des Français. Il y avait, quand on a vu le témoignage de cette femme qui était sous respirateur artificiel, je suis désolée, mais ce n'est pas de la fiction pour elle.
Entendu hier sur CNews.
Voilà, elle veut savoir, cette dame, et il y a plusieurs personnes dans sa situation, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, si j'ai une coupure de quelques minutes, de 15 minutes, je ne sais quoi, eh bien, elle peut risquer sa vie.
Elle n'a pas ému les gauchos progressistes, rassurez-vous.
Non, mais je veux dire...
Pour les émouvoir, il faut que ce soit des migrants, sinon ils ne sont pas
émus. Par ailleurs, la question, exemple, des écoles, je comprends, ce n'est pas une question de... On peut survivre, la majorité des gens, si la coupure de courant se fait quelques temps, je veux dire, on ne va pas mourir de ça, mais il y a de réelles inquiétudes. Quand vous annoncez et vous êtes au gouvernement et vous dites les écoles, les écoles fermeront tout simplement. Attendez, c'est pas banal. Est-ce qu'on va encore pénaliser des enfants qui ont été parmi les premières victimes aussi pendant la crise sanitaire? Il y a eu un gros impact. Donc, je dis pas nécessairement que ça va arriver, mais ce sont de réelles préoccupations. Et pour l'instant, je suis désolée, je comprends qu'il y a beaucoup de défis. Ce n'est pas nécessairement facile pour le gouvernement, mais on a eu droit à la politique de l'image. La politique, je suis désolée, je sais que vous portez un col roulé, mais ça a été la politique du col roulé et de la doudoune. Alors, à un moment donné, je pense que les gens s'attendent à mieux, à plus, plus de prévisibilité, et ce n'est pas ce qu'on a eu au cours des derniers mois.
Madame, on a une période d'incertitude. Les boulangers, les entreprises, les écoles, les 3800 personnes sous respirateur. Hier, j'étais en cellule de crise avec le préfet de l'Hérault et sa directrice de cabinet. On a orienté une cinquantaine de personnes qui ont des respirateurs. On a leur téléphone. Ils ont une autonomie de 3 heures. Le SAMU est au courant. Les pompiers sont au courant. Et en cas d'alerte, nous irons chez eux. Bon, si on n'est pas capable enfin de trouver 3800 personnes à assister, on n'est pas un grand pays. Bon. Le vrai débat qu'on a, si vous voulez, le débat qui est intéressant, c'est que on parlait d'abondance à un moment donné. Moi, le premier, j'ai un col roulé. À l'Assemblée, je mets un col roulé. Chez moi, je suis passé à 18. Je suis responsable pour deux raisons. Merci, M. monsieur Messia. La première, je veux faire baisser, je veux que mes gamins aillent à l'école. Et la deuxième, j'en ai marre de payer des factures d'électricité astronomiques. Donc, on est en train de changer de paradigme. On va arriver à cette transition. Cette crise a nous aidé à changer nos formulations.
C'est complètement dingue. On a quand même voté pour un président qui est soi-disant le président du progrès.
Vous avez voté pour lui.
Le président
non,
du
vous n'avez pas voté pour lui.
Non, mais la France.
Vous n'avez même pas voté pour Marine Le Pen.
Je suis quand même absolument estomaqué de la manière dont vous-même et l'ensemble de la galaxie gaucho-progressiste, y compris dans les médias, prennent ça à la légère. Imaginez que ça aurait été Marine Le Pen ou Éric Zemmour au pouvoir et qui vous aurait dit on va couper l'électricité. Et qu'on va couper l'électricité, vous auriez réagi comment?
Il faut arrêter de faire des projections.
Vous auriez été pris d'une
crise
tonico-clonique pour nous expliquer l'extrême droite, c'est la ruine.
Aucune chance d'être au pouvoir.
Bizarrement, vous amoindrez, bon. C'est tout. Et les choses les plus inhumaines, vous les défendez.
Moi, je perds pas de temps à me poser des questions.
Pardon, Valérie,
juste un truc, monsieur Messia, vous savez pourquoi vous ne serez jamais un politique? Parce que vous êtes toujours dans cette haine. Le politique, il a besoin d'avoir...
Non, mais j'en ai rien à fiche de votre avis. Bien, ça, c'est la première chose.
Une vraie photographie. Bien.
Non, mais j'en ai rien à fiche de votre avis. Ça, c'est
Jean Messia, on va écouter le porte-parole du gouvernement,
haine,
Olivier Véran.
Pardon. Vous êtes un haineux de la France.
Jean Messia, s'il vous plaît.
Vous ne gouvernez pas avec de la haine.
Vous avez la haine de la France.
S'il vous plaît, messieurs, un peu de tenue. Sincèrement, pas pour moi, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui s'en fichent de vos querelles, sincèrement. Oui, sincèrement, restons concentrés sur le débat parce que les Français, on le sent bien, il y a une inquiétude. Et ils aimeraient avoir des réponses de votre part, en l'occurrence, puisque c'est vous qui êtes là ce soir sur ce plateau. Alors, je veux qu'on écoute à présent, s'il vous plaît, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui, effectivement, cherche à se montrer le plus rassurant possible. Écoutez.
Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière.
Encore une fois, effectivement, ce qui est troublant, Patrick Vignal, c'est le décalage du discours du gouvernemental d'aujourd'hui avec le discours que peuvent avoir certains experts. Alors, est-ce que le gouvernement veut rassurer pour éviter une forme de panique, ou est-ce qu'il y a une véritable certitude que les choses vont bien se passer, comme a l'air de le penser Emmanuel Macron, par ailleurs?
Vous savez, moi, je pense que la première réflexion, c'est de dire aux Français... On peut avoir une coupure, faites attention, réduisez votre électricité. Ça, c'est un phénomène de communication intéressant. Je vous dis, je pense que si on a baissé de 8%, c'est que les Françaises et les Français sont responsables pour deux raisons. La première, on prépare la transition écologique. La deuxième, on veut pas de coupure. Et la troisième, c'est la facture d'électricité. Après, moi, j'ai pas de souci avec ça. On est dans une période d'incertitude. Voilà. Et donc, que ce soit le porte-parole, soit certains ministres, je ne sais pas. Peut-être que, cher monsieur, il n'y aura aucune coupure. Imaginez la météo qui est clément dans le sud. Il n'y aura pas de coupure. Donc, je pense
que. Oui, mais pardon, c'est terrible, effectivement, de s'en remettre à ça. Elisabeth Borne dit nous dépendons du ciel. D'abord, cette formule est quand même hallucinante. Mais ce qui est grave, c'est que vous avez raison de le dire. Ce qui est grave, c'est que c'est vrai. Nous dépendons du ciel. Précisément ça qui est inquiétant.
En fait, Johan, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu anticiper, mettre en garde la population, la contraindre, l'obliger, l'inciter à cette transition écologique et à baisser la consommation. Et l'erreur de communication qui est intervenue parce que tout le monde s'y est mis, c'est que ça a fait peur à tout le monde. Et c'est là où il y a une erreur, en fait. C'est là où c'est allé trop loin. Mais en fait, ça va pas être... Si on met un pull à col roulé quelques heures de plus ou qu'on a un peu froid, ça va pas être le drame du siècle.
Karima, ce qu'on peut dire, c'est que la consommation d'électricité a diminué de 8,3% la semaine dernière, si on compare à la même semaine en 2019, donc avant la crise sanitaire. Ce qui signifie quand même que s'il y a des coupures d'électricité, les Français ne seront pas responsables parce que manifestement, ils jouent le jeu.
Non, les Français ont entendu le message. Les Français sont extrêmement résilients, comme ils l'ont été pendant la crise sanitaire. Donc, ils font leur part. Mais en même temps, on peut quand même s'interroger sur la suite des choses. Parce qu'on le sait qu'en termes de crise énergétique, ce n'est pas nécessairement juste pour les prochains mois. On nous dit l'année prochaine, l'autre année aussi peut-être. On ne sait pas. Le contexte de la guerre en Ukraine également sur le prix de l'énergie, il y a cette question-là aussi. Et il y a toute la question de la crise climatique. Donc, est-ce que le gouvernement est en train de nous préparer pour les prochaines années, non pas juste un plan de sobriété, mais est-ce que finalement ce sera après son annonce au mois d'août quand il nous disait c'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, est-ce qu'il nous prépare finalement au quinquennat de la décroissance?
Bon, il nous reste quelques minutes pour aborder cette annonce de la première ministre Elisabeth Borne qui annonce donc une ristourne sur les carburants, une ristourne, vous savez que la ristourne prendra fin le 31 décembre pour l'ensemble des Français. Eh bien, Elisabeth Borne annonce aujourd'hui qu'un chèque sera mis en place pour remplacer cette ristourne, 100 euros pour, en gros, 10 millions de Français. Écoutez.
Comme le président de la République l'avait dit, on va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour à peu près la moitié des ménages. Ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 km par an, qui est la moyenne de ce que font les Français.
Patrick Fignal, 1 milliard d'euros donc pour à destination de ces 10 millions de Français. Vous savez, c'est une nouvelle ristourne.
Oui.
Je croyais que le quoi qu'il en coûte était terminé. Manifestement,
je vais vous dire, moi je préférerais qu'on mette 1 milliard à faire de l'énergie renouvelable. On est d'accord. On finance quand même du carburant. Le vrai débat, moi qui habite dans les territoires ruraux, quand vous habitez dans une métropole, vous habitez à Paris, vous avez votre passe qui d'ailleurs a augmenté et ça vous coûte moins cher. Vous savez que les gens de ma circonscription, il faut entre 120 et 150 km par jour pour travailler. Donc moi, je trouve assez intéressant qu'on ait ciblé encore plus pour ceux qui en ont le besoin. Ceux qui n'ont les moyens n'ont pas besoin de chaque carburant. Et je vous signale encore que le baril a baissé. Donc oui, on est obligé à un moment donné de faire en sorte que ceux qui en ont le plus aident ceux qui en ont le moins.
Oui, mais on peut quand même remarquer qu'à un moment, il avait été envisagé de donner ces chèques à ceux qui roulaient le plus, que ça n'a pas été fait et que là, c'est donné indifféremment à ceux qui ont des revenus dits modestes.
Donc, a priori, moins de 1 500 euros net par mois donc, et une déclaration sur l'honneur.
Voilà, donc ça fait 10 millions de personnes en France. Et du coup, ce que vous dites perd un petit peu de sa valeur parce que quand vous habitez dans une agglomération à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans une grande ville, vous allez toucher le chèque exactement de la même façon que celui que vous décrivez et qui va devoir faire des tas de kilomètres.
Alors, a priori, il faut quand même utiliser sa voiture pour aller travailler, pour pouvoir toucher le chèque. Ouais, Encore une fois, c'est une déclaration sur l'honneur.
C'est une déclaration sur l'honneur. Donc il faut croire...
Jean Messia, est-ce qu'il était temps quand même de davantage cibler ces aides, que ces aides aillent uniquement à ceux qui en ont besoin et pas à l'ensemble de la population comme c'est le cas en ce moment?
Après, vous savez, c'est très compliqué. Moi, je me réjouis d'abord qu'il y ait une aide parce que la situation... par rapport à l'inflation de manière générale et l'inflation sur les hydrocarbures de manière particulière est telle qu'effectivement un tel chèque est salutaire pour beaucoup de Français, même si on peut regretter qu'il ne soit pas suffisamment ciblé ou qu'il ne soit pas suffisamment important. Maintenant, si vous voulez, vous avez une litanie de chèques entre les chèques pour le bois de chauffage, le chèque pour le fuel, le chèque des différentes aides, allocations, etc. Je pense qu'il va falloir bientôt mandater le cabinet McKinsey pour qu'on s'y retrouve dans la litanie des chèques et des aides qui sont proposées, parce que c'est une politique globale dont on ne comprend plus rien. Et je crains, si vous voulez, que compte tenu de la dette française... le chèque, notamment le chèque pour le bois de chauffage et les autres chèques, ne deviennent pour le coup des chèques en bois parce que l'endettement de la France est tel que tout ça est financé à crédit et ce sont in fine quand même les Français qui vont le payer.
Bon, Karim Abrik, pour le mot de la fin, il est vrai que beaucoup de Français, dans cette période d'inflation extrêmement forte, attendent cela et en ont réellement besoin pour continuer à utiliser leur voiture. Ça, c'est aussi une réalité.
Oui, tout à fait. Donc, tant mieux que les Français puissent avoir une certaine aide, même si on voit que c'est le paradoxe. Ça va dans l'esprit contraire à cette volonté d'aller alléger cette crise climatique. Mais je pense que c'est essentiel dans le contexte actuel. Par ailleurs, c'est une politique qui est sur le respirateur artificiel dans la mesure où ça ne peut être que du court terme. On ne peut pas avoir ce genre de politique sur du long terme. Ça ne fonctionne pas. Mais bon, à court terme, on l'a dit, dans une situation de crise, d'incertitude, d'inquiétude. D'urgence. Alors, tant mieux si on peut aider les Français dans le besoin.
Eh bien, merci à vous quatre d'être venus débattre ce soir sur le plateau de CNews. Pas toujours dans le calme, de manière un peu passionnée, parfois un peu trop passionnée même. Mais en tout cas, merci à vous donc d'avoir abordé ces sujets. Bientôt 23h, 22h58 sur CNews. On fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité.
Des débordements à Paris hier après la victoire du Maroc. 22 personnes ont été interpellées dans la capitale. Plus de 700 policiers étaient mobilisés au total. Dans d'autres villes comme à Nice, des débordements ont également éclaté, nécessitant l'interruption de la circulation du tramway. En cas de coupure cet hiver, il ne sera pas possible de faire son plein. Les stations-service se mettront automatiquement à l'arrêt. Le gouvernement tente pourtant de rassurer face au potentiel délestage. Emmanuel Macron notamment dit stop au scénario de la peur. Olivier Véran appelle les Français à la responsabilité face au Covid-19. Les contaminations repartent à la hausse en France. À l'approche des fêtes de fin d'année, le porte-parole du gouvernement invite les Français à reporter le masque. Il demande également aux personnes éligibles à faire leur dose de rappel. Et puis Volodymyr Zelensky, nommé personnalité de l'année par Time Magazine. Selon le rédacteur en chef, le président ukrainien a galvanisé le monde. Il a aussi rendu hommage à l'esprit de l'Ukraine et sa résistance face à l'invasion russe. En 2021, c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk qui avait été distingué.
Merci beaucoup Adrien Spiteri. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités dans Face à l'Info. Demain, Julien Pasquier à 22h30 pour Soir Info. Passez une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.